Molt bé. Ara, després d'aquestes intervencions, doncs, si toca intervenir els dos ponents d'aquesta sessió, dono la paraula ara a Mohamed Akhrun, professor emèrit d'Història del Pensament Islàmic a la Universitat de la Sorbona de París.
Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est toujours une grande fête intellectuelle pour moi d'être à l'Institut méditerranéen où j'ai eu le privilège d'être présent depuis très longtemps. Et nous sommes à Barcelone, qui s'est distinguée et qui se distinguera de plus en plus parce que c'est la ville où a démarré le processus de Barcelone. Le processus de Barcelone est un événement historique orienté vers le futur. C'est toute la présence de l'Union européenne qui elle-même est en plein devenir, en pleine construction, dans des difficultés, avec toutes les résistances des États-nations. Mais heureusement, le processus de construction continue et il ouvre des espoirs considérables, et tout d'abord des espoirs dans ce grand espace historique qu'est l'espace historique méditerranéen, qui est différent de l'espace géographique, et que l'espace géopolitique tel qu'il a été construit arbitrairement déjà depuis le 19e siècle, ensuite depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, depuis 1945, tourne le dos absolument à tout ce que nous avons évoqué à propos de cette grande figure méditerranéenne, de penseur méditerranéen et d'acteur dans le devenir intellectuel, spirituel, politico-juridique de cet espace méditerranéen. Raymond Lull a surgi lui aussi dans cette Catalogne. Petite Catalogne géographiquement, mais qui véritablement, à mon avis, est en train de prendre en charge mieux que partout ailleurs dans les autres parties méditerranéennes de l'Europe le sort futur de cette Méditerranée. Je précise historiquement que l'espace historique méditerranéen s'étend de l'Atlantique jusqu'au fleuve Indus. Le fleuve Indus. Donc, tout l'Iran fait partie de cet espace. Pour des raisons qui ne sont pas du tout contingentes. Ça dépasse la géographie, mais ça concerne, si vous voulez, la géographie intellectuelle des déploiements historiques de l'esprit humain. Je le dis comme ça. Des déploiements historiques de l'esprit humain. Pourquoi? Entre la démarche de Raymond Lull et le discours de Ratisbonne par le pape actuel, il y a une continuité que je veux souligner devant vous. La continuité, c'est le point d'appui de la pensée dans cet espace sur le logos mutos, couple. Car il n'y a pas que le logos. Dès le départ, Platon, Aristote et leur grand corpus qui règne encore dans nos têtes et dans nos cultures, c'est le couple et l'intensité dialectique de ce couple qui est présente dans toutes les cultures humaines et dans toutes les langues humaines. Mutos. Inévitable, dans tous les écrits, les plus rationalisés qui soient, les plus logocentristes qui soient, le mythe est encore là, qui joue. Et donc cette dialectique, c'est elle qui permet ce déploiement historique des facultés de l'esprit humain les facultés du poète, les facultés de l'écrivain, les facultés du visionnaire, les facultés de l'artiste, et de l'autre côté, les facultés du logos, tel que le corpus aristotélicien l'a construit et tel qu'il a essayé de régner dans l'espace méditerranéen. Face à ce couple, dans l'espace méditerranéen, face à ce couple logos-mutos, il y a un autre couple dialectique, lui aussi, qui lui fait face dans tout l'espace méditerranéen et maintenant au-delà de l'espace méditerranéen. D'où l'importance de l'espace méditerranéen. C'est le couple parole de Dieu, discours prophétique. Je n'ai pas le temps. C'est toute une conférence, ça, à soi tout seul. De vous expliquer en quoi le couple parole de Dieu, transmise par des discours dans des langues humaines, hébreu, araméen, arabe, socle sémantique des langues sémitiques, avec toute la continuité que nous connaissons. Et c'est ce que j'appelle le discours prophétique au sens le plus linguistique du mot, qui n'a rien à voir avec la théologie. Car la théologie va se construire avec plus avec du mythos qu'avec du logos. Et ça, c'est extrêmement important. Alors qu'à l'origine est premièrement, comme on vient de signaler l'importance de la langue en général, c'est dans la langue. Au commencement était le verbe. Eh bien, le verbe a été, dans cet espace méditerranéen, hébreu, araméen, c'est-à-dire syriaque. L'araméen n'est qu'un dialecte de la grande langue syriaque. Et ensuite l'arabe. Et c'est un couple dialectique parce que on est en train toujours de batailler à propos de la parole de Dieu comme porteuse de la religion vraie. Et j'ai prononcé le mot de tous les conflits, le mot de toutes les guerres jusqu'à présent, le mot de toutes les déchirures entre les humains et en particulier dans l'espace historique méditerranéen. Parole de Dieu égale religion vraie, le concept mortel, porteur de mort, de violence, à tel point que j'en fais un triangle anthropologique. Violence, sacré et vérité. Ça fait un triangle de force qui habitent les imaginaires humains et qui vont les habiter dans la tension avec l'autre couple, logos-mutos. Le règne du corpus aristotélicien, aussi bien pour former la pensée islamique, la théologie islamique, la philosophie qui s'est exprimée en islam, que pour former la théologie catholique, ô combien importante. Saint Thomas d'Aquin, contemporain de cette grande figure, à mes yeux plus humaniste et plus ouverte, parce qu'il connaissait la langue, il connaissait l'arabe, il connaissait l'hébreu. Saint Thomas d'Aquin ne connaissait que le latin. Ça fait une différence considérable. Bien que Saint Thomas d'Aquin soit grand par ce qu'il a fait, bien sûr, intellectuellement, mais justement, le logos, si fortement privilégié uniquement dans la langue latine, par Thomas d'Aquin, va léguer des conséquences considérables sur l'autre couple, parole de Dieu, discours prophétique. Avec toutes les réductions du logocentrisme, lisant le discours prophétique de la Bible, des évangiles et du Coran, qui va être mis de côté le Coran pendant des siècles et dès la naissance, Dès la première émergence du discours prophétique en langue arabe, d'expression arabe et non plus araméenne, et on oublie évidemment la langue, c'est la linguistique qui me fait parler comme ça. Et c'est notre connaissance de la linguistique et les problématisations du discours humain par la linguistique moderne qui nous permet aujourd'hui de parler comme je parle. Au Moyen-Âge, ça n'était pas possible. Voilà pourquoi Raymond Lulle est une plateforme formidable qu'il ne faut surtout pas quitter et qu'il faut absolument développer. C'est un humaniste dans une période de l'histoire, j'ai évoqué tout à l'heure le XIIIe siècle, c'est un grand tournant historique dans l'histoire, justement, de ce qui déchire la Méditerranée. Parce qu'à partir du XIIIe siècle, le temps de la certitude, le temps de la puissance de l'islam comme force de soulèvement historique des sociétés dans le monde méditerranéen et au-delà, va commencer à baisser. Le califat tombe en 1258. Nous sommes au XIIIe siècle. Milieu du XIIIe siècle. Le califat est une référence politique, certes, mais c'est un centre vers lequel on regarde et c'est une capitale où se sont déroulés les débats les plus intenses et les plus créateurs intellectuellement du 7e siècle jusqu'au 13e siècle précisément. Et ces débats-là vont être oubliés. Ces débats-là vont être effacés. Le pluralisme doctrinal des écoles qui s'est développé pendant ces siècles, ça va disparaître. Et c'est le début de ce que j'appelle les décalages historiques. Entre un monde qui a été puissant et qui a eu confiance en lui, et qui va perdre progressivement toute confiance en lui, en commençant par la perte du politique, la coupure avec le politique, et le vide politique laissé par la fin du califat va être rempli par les confréries religieuses, mesdames et messieurs. Et les confréries religieuses, ce sont les zaouïas d'aujourd'hui, sur lesquels s'appuie aujourd'hui, au Maghreb en particulier, la souveraineté politique d'États qui n'ont pas su conquérir une légitimité politique moderne appuyée sur une expérience démocratique et qui vont la rechercher aujourd'hui chez les Zaouïas après les avoir combattus au lendemain des indépendances, les années 60-70, on a combattu les Zaouïas, même les ulémas eux-mêmes ont combattu les Zaouïas parce qu'ils exprimaient un islam populaire, parce que les chefs des Zaouïas ont encadré les populations à la fois politiquement et religieusement. C'est une histoire considérable, histoire négligée par nos universités. Et j'en appelle justement, dans cette Méditerranée, à toutes les universités de Méditerranée. Je dis, je n'ai pas le temps de développer, excusez-moi. Mais ça, je le vis, vous voyez avec quelle intensité quand je parle de ça. Je le vis depuis 50 ans. Et je le vis depuis que j'ai fait mes études à Alger et à Oran, et j'ai compris ces problèmes-là, et je rêvais déjà de Raymond Lulle. Oui, mais messieurs, dames, je vous le dis, il m'a habité, Raymond Lulle. Et il m'a habité de cette façon-là, avec cette continuité historique. Et cette continuité historique que ni l'université, ni la pensée européenne, dans ce qu'elle a de meilleur, et dans ce qu'elle a de plus avancé, ni là encore moins, ce que nous appelons la raison des Lumières. Car la raison des Lumières a pris deux souverainetés en main et les a exercées avec la même arrogance. La souveraineté intellectuelle, substituée à la souveraineté de la raison théologique, on passe de la théologie politique à la philosophie politique, souveraineté intellectuelle qui va de pair avec la souveraineté scientifique de la connaissance exacte et de tout ce que nous avons aujourd'hui et qui va déboucher aujourd'hui sur ce que les philosophes appellent la raison télé-techno-scientifique. La raison télé-techno-scientifique. Télécommunication, technologie et scientifique toujours là. Qui va éliminer du champ de la curiosité, éliminer du champ de la recherche scientifique, quasi éliminer, il faut dire. Quasi éliminé, puisque nous sommes analphabètes en matière de religion. Nous sommes analphabètes dans la lecture et le déchiffrement du fait religieux encore aujourd'hui, qui nous assaille et qui retourne en force, parce que ni le moment d'ascension de la pensée islamique, ni le moment chrétien et le moment européen de l'ascension de la modernité, jamais sociologiquement. Les paysanneries, les nomades du côté de l'islam n'ont participé à toutes ces révolutions, à toutes ces idées, etc. Ils sont restés à l'écart, absolument à l'écart de ces aventures de la raison et de ces aventures intellectuelles et de ces aventures de la connaissance. Et la chose est pire encore, puisque le décalage historique, intellectuel et scientifique depuis le XIIIe siècle jusqu'à nos jours, du côté du sud et de l'est de la Méditerranée, n'a fait que s'approfondir. Et la pire, le pire des moments de cette descente aux enfers, intellectuelle et culturelle et scientifique, paradoxalement, le pire, c'est le moment que nous avons appelé la libération politique, la fin du colonialisme. Et ça a des explications historiques et sociologiques. Je passe mon temps à enseigner, et je n'ai pas réussi à l'introduire et à convertir, mais ceux qui exercent la responsabilité du découpage des objets d'études au CNRS et dans les centres de recherche. Pratiquer la sociologie de l'échec, de la raison des Lumières dans le reste du monde que cette raison a colonisé, car elle a échoué. C'est un échec de dimension historique. Il faut faire la sociologie de cet échec en Europe, porteuse, lieu de naissance, lieu d'expansion de la raison des Lumières. Je n'ai jamais lu un texte d'un chercheur, d'un sociologue, posant la question de la sociologie de l'échec, des espérances que portait la raison des Lumières, non seulement pour l'Europe, mais pour le reste du monde. Et voici qu'on a fait des discours sur l'universalité de cette raison, alors qu'elle est restée provinciale. J'exagère, bien sûr, mais quasi provinciale. Puisqu'elle est totalement démunie aujourd'hui devant les problèmes considérables que lui pose un retour absolument sauvage du religieux, sauvage au sens anthropologique, qui désormais est au sein même des sociétés européennes, et vous voyez très bien qu'il n'y a aucun discours vraiment pour avancer avec cet islam qui vit désormais dans les sociétés européennes. Vous voyez la campagne, je suis français, la campagne électorale que nous venons de vivre en France. La France, pays où il y a la plus forte émigration de confession musulmane. Il n'y a pas un discours évoquant ces choses que j'évoque pour essayer de les installer parmi les chercheurs scientifiques, les sciences sociales, mobiliser les sciences sociales, et parmi ceux qui ont le devoir d'assigner à ces sciences sociales une réflexion, une histoire, j'appelle ça une histoire réflexive de nos traditions réciproques. Voilà pourquoi je souhaite, et partout j'essaye, d'éviter le mot dialogue, et je rejette l'usage, pas la pratique bien sûr, de ce qu'on appelle le respect des différences, le droit à la différence, le respect des désaccords. Il y a des désaccords. Non, il n'y a pas de désaccord. Il y a des ignorances terribles, des ignorances institutionnalisées, enseignées par des professeurs d'université, et ça descend jusqu'à l'élémentaire. Et c'est payé par les ministères de l'Éducation nationale. Le processus de Barcelone, je l'ai dit depuis la première réunion de Barcelone, ici, en 1995. Il faut une diplomatie préventive qui progressivement impose, je dis bien, ou amène en tout cas, les choses pour qu'elles se déroulent et se fassent. Pourquoi faire? Pour négocier avec tous les participants du processus de Barcelone. Négocier un programme d'enseignement de l'histoire de l'espace méditerranéen. Un enseignement qui se fera d'abord préparé au niveau de la recherche avec trois opérations intellectuelles. trois grandes opérations intellectuelles qui changent épistémologiquement la manière de penser l'histoire elle-même et de l'écrire. Transgresser, déplacer et dépasser. Déplacer pour dépasser, transgresser toutes les frontières culturelles, intellectuelles, spirituelles, car le problème de la spiritualité est à remettre en chantier complètement. La spiritualité, c'est comme les droits de l'homme. C'est pour faire de vous jeter de la poudre aux yeux et fermer le bec à tout le monde. Et oui, c'est pour fermer le bec à tout le monde. Dès que je dis de spiritualité, ça y est, je tremble, je renonce à tout. Mais bien sûr, c'est formidable, la spiritualité. La question du soufisme, il faut la remettre en chantier. Complètement, entièrement transgresser les frontières héritées et qui marquent la géographie de notre cerveau et marque profondément le fonctionnement de notre cerveau aujourd'hui. Nous avons hérité des choses et pour les fuir et fuir les vrais problèmes, je respecte votre différence. Je respecte votre foi. Non, Raymond Lull n'a... Vous voyez Raymond Lull ce qu'il a fait. Il a écrit un ouvrage sous la forme d'une fiction, ça a été évoqué. Il a eu recours à l'expression littéraire par une fable, une ample fable, pour faire surgir, justement, non pas des différences, mais ce que j'appelle le statut cognitif du discours prophétique. C'est ça qu'il faut ensemble mettre en chantier, mon cher collègue. Oui, vous savez, tout l'espoir que j'attache à votre chair, à l'UNESCO, qui est un signe des temps. Le statut cognitif du discours prophétique, c'est un immense programme. Et c'est l'impensable de la pensée européenne d'aujourd'hui. C'est son impensable. Quant à la pensée islamique, malheureusement, et on est à un tel point qu'on n'en est pas à un impensable près. Parce que depuis le XIIIe siècle, que le questionnement philosophique a disparu, que le questionnement théologique a disparu, on a accumulé un nombre d'impensables et d'impensés, tel qu'il ne reste plus que le respect d'une souveraineté politique arrogante. Après tout ce qu'on a vu, la période de la page coloniale et la libération et tout ça, le farouche souveraineté ne touchait pas plus du tout. Et on recule, on est effrayé. On ne peut plus rien dire. À laquelle s'ajoute la souveraineté de la religion vraie. La souveraineté de la religion vraie. Car ce Raymond Lull, vous voyez comment il a été traité finalement. Avec quel dédain et quelle distance. On traitait son initiative. Impensable. Parce que l'islam, c'est la religion vraie. Et de l'autre côté, le christianisme, c'est la religion vraie. L'inquisition va arriver bientôt. Elle est en train d'arriver en Andalousie. Donc, vous voyez pourquoi je parle de transgresser. Et transgresser surtout les formations théologiques dogmatiques qui instaurent une expression orthodoxe de la foi de part et d'autre et d'une foi basée sur le postulat énorme de la religion vraie. Il faut donc absolument déplacer maintenant toute l'œuvre et l'effort déployé par Raymond Lull en son temps. On ne peut pas l'accuser de ne pas avoir fait mieux, il a fait le plus qu'on peut faire au XIIIe siècle. tel qu'était le catholicisme au XIIIe siècle et tel qu'elle était l'islam au XIIIe siècle. Aujourd'hui, nous pouvons faire ces opérations-là, intellectuellement, scientifiquement, avec des documents, tout ce qu'on veut, des universités, des lieux de travail, tout ce qu'on veut, des ressources pour travailler, les jeunes ne demandent que ça. Transgresser, déplacer. En introduisant le couple, parole de Dieu, discours prophétique, j'ai fait un déplacement. Le déplacement, j'arrache ou je déplace ce couple de la sphère et du monopole des théologiens qui l'ont géré jusqu'à présent, je déplace ce couple vers la linguistique, vers l'histoire comparée des religions et vers l'anthropologie du fait religieux. C'est un autre monde, une autre manière de réfléchir, une autre manière de voir les choses. Et nous sortons véritablement du cléricalisme qu'une certaine laïcité a prorogé de la manière que nous connaissons historiquement, ce qui remet en question aussi la pratique de la laïcité dans toute l'Europe d'aujourd'hui. Et je parle dans la perspective de l'Union européenne de demain. Et puis dépasser. Dépasser. Ne plus parler du respect des différences alors qu'on ne sait rien de ces différences. On ne sait pas la genèse de ces différences. Et qu'est-ce que veulent dire ces différences? C'est les gens qui vivent dans la souffrance. Parce que ils sont opprimés, ils ne peuvent pas parler. Et pour se protéger, ils ne savent que dire « Moi, je suis différent, laissez-moi ma différence. » Parce qu'on n'ouvre pas les dossiers. Ni dans les démocraties, non, ni dans les États que certains ont nommés voyous. Et il y a des États voyous. Ça existe. Je les ai rencontrés. Nous les avons rencontrés, mais nous ne pouvons pas le dire. Voilà le futur de la médiation, où la figure, la grande figure que personnellement je déclare mon amour pour lui, oui, Raymond Lull, c'est une figure que j'aime. Parce que c'est une figure libératrice et le travail qu'il a fait en plein XIIIe siècle est absolument émouvant. Émouvant intellectuellement. Et puis émouvant, peut-être spirituellement, mais moi, quand je parle de spiritualité, c'est sous bénéfice d'inventaire, d'abord. Voilà, excusez-moi d'avoir...
moltes gràcies. Ara...